Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Pour continuer sur ce thème de la foi dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises, dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. On a vu que la foi... La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Déjà, on a vu que nous avons besoin de cette parole pour nourrir notre âme. On a parlé de la prière de la foi et l'importance d'associer la foi lorsque nous prions et nous attendre à ce que Dieu nous exauce. C'est quelque chose qui est demandé dans l'Écriture. Nous avons vu que notre foi peut être éprouvée, comme Abraham a été éprouvé dans sa foi. Lorsqu'il a fallu qu'il croie dans la promesse de Dieu sans voir les choses se réaliser, mais persévérant, espérant contre toute espérance, il a cru et il a avancé dans l'obscurité. Et ce matin, j'aimerais partager le sujet des conséquences de la foi dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. » J'aimerais qu'on prie un instant pour... méditer vraiment, recevoir dans notre cœur cette pensée. Merci Seigneur de toucher encore nos cœurs par ce message de ta parole concernant la foi. Nous voulons grandir dans la foi, nous voulons la recevoir maintenant, recevoir ta parole comme cette nourriture de la foi. Seigneur, nous voulons la saisir par l'esprit, non pas par l'intelligence, mais par l'esprit, par le cœur, afin de la vivre et de manifester les fruits de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est notre nourriture, mais c'est le seul livre qui explique aux hommes comment on va au ciel. Il n'y a pas d'autre livre qui explique le salut si ce n'est la parole de Dieu. Et le premier point que je voulais partager avec vous ce matin concernant les conséquences de la foi, c'est d'abord le salut. Les conséquences de la foi, premièrement, le salut. Il y a deux éléments dans notre verset 8 qu'il nous faut méditer. Je dis bien méditer la parole de Dieu, il ne suffit pas de la lire en passant rapidement sur les versets, mais de prendre le temps de réfléchir aux choses de Dieu. C'est ça, méditer la parole de Dieu, c'est prendre le temps de réfléchir en priant. Et c'est comme cela que la parole va produire davantage de fruits dans notre vie. Il y a deux éléments au verset 8 importants. Il y a la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il y a la foi, par le moyen de la foi. On va se pencher d'abord sur la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, bien sûr, on en parle, on l'a chanté encore ce matin, c'est quelque chose qui fait partie de l'Écriture et qui doit faire partie de notre existence. Mais précisément, la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour tous les hommes, parce qu'il veut sauver tous les hommes. Dieu veut faire grâce à tous les hommes. Mais si Dieu veut faire grâce, ça présuppose une autre chose, parce qu'on ne fait pas grâce à des innocents, on fait grâce à des coupables. Donc ça présuppose, si Dieu fait grâce, que nous sommes dans un état de culpabilité, nous sommes coupables devant Dieu à cause de nos péchés. Il faut partir de là pour comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, donc, vient au secours de notre défaillance, parce que nous avons péché. La grâce de Dieu, c'est donc un cadeau que personne ne mérite, parce que c'est pas par... si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous étions les meilleurs citoyens de la ville de Toulouse ou de l'agglomération. Ce n'est pas parce que nous avions un niveau de morale plus élevé que les autres ou que nous étions meilleurs que les autres. Peut-être il y avait... même des gens dans leur passé qui étaient des voleurs, qui étaient des bandits ou qui étaient des criminels, mais Dieu leur a fait grâce. J'ai cité ce témoignage de cet homme qui vivait de, du racket, du banditisme qui faisait de la fraude à la carte bleue. C'était dans la région de Corse. Et puis un jour, il a fait un grand coup. Il a volé un vieux parchemin dans une bibliothèque nationale, un vieil évangile dédicacé au roi. Et cet homme qui était encore voleur, il est parti avec son butin, il avait volé d'autres choses. C'est la première fois qu'il a lu l'évangile, mais il était encore voleur. Mais en lisant l'évangile, il a vu que Jésus côtoyait aussi des voleurs, des gens de mauvaise vie. Il a lu cet évangile. Et bien ce jour-là, il a donné son cœur au Seigneur, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il était encore voleur, et en lisant l'évangile, il se rend compte que Jésus est venu pour sauver tous les pécheurs, y compris lui, ce voleur. Et ce jour-là, il a donné son cœur au Seigneur, il est allé restituer à la police tout ce qu'il avait dérobé, il a eu, tout a été examiné par des avocats, et puis il a donné son cœur au Seigneur, il a été baptisé. Aujourd'hui, il sert le Seigneur, c'est Jean-Marc Lamothe, il est missionnaire aujourd'hui. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu qui change une personne qui est condamnée à être pour l'enfer, pour l'éternité, à faire de lui un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Dieu lui a fait grâce, mais Dieu nous a fait grâce aussi parce qu'on n'était pas meilleur que les autres. Alors la grâce, c'est un cadeau parce qu'elle vient de Dieu. Aucun pécheur ne peut se gracier lui-même. Il nous faut la grâce d'en haut. Il y a un verset dans l'évangile de Jean qui dit, c'est Jésus qui parle à Nicodème, et il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ou on peut traduire, il faut que tu naisses d'en haut. Et ça nous parle de la grâce de Dieu aussi, parce que la grâce, elle vient d'en haut. La nouvelle naissance, elle vient d'en haut. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. La grâce, elle est universelle, c'est-à-dire qu'on peut la comprendre ici en France, mais on peut la comprendre dans tous les pays du monde. Parce que c'est un langage que tout le monde peut saisir. Même un enfant peut saisir la grâce de Dieu. La grâce, par contre, n'est pas éternelle. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jour de grâce. Autrefois, les navigateurs écrivaient « jour de grâce » de l'année 1752, par exemple. Mais on a chanté tout à l'heure que Jésus va revenir nous chercher. Et le jour où Jésus viendra nous chercher, eh bien, les portes de la grâce vont se refermer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être sauvé par la grâce de Dieu. Mais quand Jésus revient, c'est trop tard. Jésus viendra enlever les siens, et à ce moment-là, les portes du ciel et les portes de la grâce vont se refermer. Et ça sera le jugement et la condamnation. C'est pourquoi la grâce, elle est là aujourd'hui, mais demain ne nous appartient pas. Il faut la saisir tant qu'on en a la possibilité. Et enfin, la grâce, elle doit être accepter personnellement, parce qu'elle est disponible pour tous gratuitement, mais il nous faut la saisir par la foi. La saisir, l'accepter, il y a une anecdote qui est arrivée lorsqu'Andrew Jackson était le 7e président des États-Unis. Un dénommé George Wilson a commis un cambriolage dans une banque. Et alors qu'il partait avec son butin, il y a un homme qui a assisté à ce cambriolage, et qui a tiré sur le voleur. Le voleur a été tué, et cet homme a donc été jugé pour le meurtre qu'il avait commis dans cette banque. Et quand le président des États-Unis a entendu la situation particulière dont avait eu lieu cette mort, alors que l'homme était en prison et qu'il devait subir sa condamnation à mort, eh bien, le président a édité une lettre de grâce, la grâce présidentielle. Et lorsque le prisonnier a reçu ce papier, pour la première fois dans l'histoire, il a refusé la grâce. C'est une possibilité qu'il avait, mais que personne n'a jamais utilisée. Il a refusé la lettre de grâce du président. Il n'en a pas voulu. Et c'est là que les juristes se sont réunis et ont écrit ceci. La grâce présidentielle n'est qu'un simple morceau de papier. Elle ne possède un pouvoir d'acquittement que sous réserve d'acceptation par la personne qui fait l'objet de cette grâce. Si la dite personne refuse la grâce, elle ne peut être acquittée. Aussi, la sentence de mort rendue sur le condamné doit-elle être appliquée. Cet homme était certes gracié parce qu'il avait la grâce présidentielle, mais en même temps, parce qu'il a refusé la grâce, il a été condamné. Eh bien, je prendrai le même exemple par rapport à Dieu, parce que Dieu a envoyé une lettre de grâce, vous l'avez entre vos mains, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la grâce pour tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes, c'est la grâce. Et nous l'avons reçue. Sauf que, pour qu'elle soit effective dans notre vie, il nous faut accepter la parole, la recevoir dans notre cœur, et c'est à ce moment-là que nous sommes effectivement graciés. Si nous refusons de croire, si nous rejetons la parole de Dieu, bien que Dieu veut nous faire grâce, eh bien nous n'en bénéficions pas finalement et nous sommes sous la condamnation. Alors comment Dieu peut-il nous faire grâce? Eh bien, tout se situe à la croix. On a pris la Sainte Cène tout à l'heure, on se rappelle des meurtrissures de Jésus à la croix. Il faut régler le problème du péché. On a dit, on est pécheurs, on est tous perdus, mais comment allons-nous nous approcher de Dieu? Eh bien, c'est par Christ. À la croix, Christ a effacé toutes nos condamnations. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. La croix, c'est donc le jugement de Dieu sur nos péchés, ils ont été effacés. Et c'est pourquoi Dieu peut nous faire grâce. Parce que quelqu'un a payé notre dette, Jésus. La croix, c'est, nous le disons, c'est le lieu de tous les paradoxes. Jésus est mort pour nous donner la vie. Jésus a été maudit afin que nous soyons bénis. Jésus a été condamné afin que nous soyons justifiés. Jésus a souffert afin que nous soyons guéris. La croix, on peut dire que c'est la preuve. Paul dit que Dieu prouve son amour envers nous. Nous disons ce matin que la croix, c'est la preuve concrète de l'amour de Dieu. Jésus n'avait pas versé son sang. Il n'avait pas à subir le fouet, à subir les crachats, les moqueries, toutes ces heures de souffrance sur la croix. Jésus n'avait pas à le faire, cela. Mais c'est la preuve de son amour pour nous, c'est que Jésus s'est offert en sacrifice pour effacer nos péchés. La grâce de Dieu, elle est là. C'est une œuvre qui a coûté cher pour Jésus, mais qui est gratuite pour nous, parce qu'il a fallu qu'il souffre, il a fallu qu'il paye de sa vie. Alors ça, c'est la grâce. Vous voyez, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc on a parlé de la grâce, l'amour de Dieu, qui est disponible pour tous les hommes de toutes les générations. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur la foi maintenant, verset 8, par le moyen de la foi. Donc la grâce est nécessaire pour notre salut, mais il y a un autre ingrédient qui vient s'ajouter, c'est la foi. Autrement dit, la grâce à elle seule ne sauve pas. Il y a un élément nécessaire qui est dans notre cœur, qui doit jaillir dans notre cœur, c'est la foi, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la foi? Je distingue la foi de la croyance populaire. La croyance populaire, c'est le fait de croire qu'il y a quelque chose après la mort, ou qu'il y a quelque chose dans le ciel, ou quelqu'un dans le ciel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient même dans les forces de l'esprit, par exemple, dans les forces spirituelles. Mais ils n'ont pas la foi qui sauve. Ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Dieu. Donc je distingue la foi véritable dont il est question ici, le moyen de la foi qui est spirituelle, la foi qui vient de Dieu, de la foi, ou plutôt la croyance humaine, parce que l'être humain a des capacités de croire, des choses extraordinaires. Il y a des années, j'étais à Paris, on m'a tendu un prospectus. C'était un prospectus qui parlait des Raéliens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe, les Raéliens. Je regarde le prospectus, voilà ce qui est écrit. « Voilà plusieurs années, des scientifiques d'une autre planète sont venus sur la Terre et y ont créé toute forme de vie, y compris les êtres humains, qu'ils ont créés à leur propre image. Ce sont les Elohim. » Alors là, on voit que la croyance humaine est capable d'exploits et même de prodiges pour croire dans des choses aussi farfelues. Ça, c'est une croyance. Et il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de cette croyance. Mais ça n'est qu'une croyance. Parmi ils estiment qu'il y a plus de 10 000 religions qui existent ou formes de croyances qui existent dans le monde aujourd'hui. Presque chacun peut inventer la sienne. Ce n'est pas la foi, ça. C'est l'imagination des hommes qui croient dans les extraterrestres, qui croient dans toutes sortes de supercheries, mais qui ne sont pas de Dieu. La foi n'est pas non plus une connaissance intellectuelle des dogmes et de la religion chrétienne, parce que beaucoup de gens savent, par exemple, que la Bible dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ils ne croient pas dans leur cœur. Ils ont une connaissance de la religion, une tradition religieuse. J'ai même rencontré quelqu'un qui, d'une église évangélique qui m'a dit « Oui, mais moi, comme mon père est pasteur, de toute façon, je suis de tradition évangélique, donc j'ai bien une petite place au ciel. » Mais il n'avait pas donné son cœur au Seigneur. Et ce n'est pas parce que nos ancêtres ou nos prédécesseurs ont été des chrétiens que nous sommes chrétiens automatiquement. Il y a un pas de foi à faire. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une tradition, la foi. C'est bien plus que cela. Ce n'est pas une vague impression. Nous dirons que la foi, le moyen de la foi dont il est question, c'est une faculté que Dieu a placée dans le cœur de l'homme. Et il va pouvoir mettre sa confiance en Dieu maintenant, en Dieu seul, en Jésus. Dieu a donné la possibilité à l'homme de croire des choses incroyables. Et je parle même sur le plan humain. Dieu nous a donné cette capacité de croire, jusqu'à croire dans l'existence de Dieu, mais jusqu'à croire des choses incroyables, parce que si on écoute ce que disent les discours aujourd'hui autour de nous, les gens sont capables de vous dire, même des scientifiques, que l'univers et tout ce qui nous entoure a jailli du néant par hasard, il y a des milliards et des milliards d'années, qu'il n'y avait rien et d'une tête d'épingle a jailli tout l'univers que vous voyez. Ça, ils sont capables de le croire. N'est-ce pas Dieu qui a placé dans l'homme la capacité de croire des choses incroyables? Mais si vous leur parlez de Dieu, voilà, ils ne croient pas. Parce que l'ennemi Satan a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Mais par contre, Satan fait miroiter des choses incroyables que les gens croient, et des gens intelligents. Je disais un article d'un autre spécialiste qui s'appelle Martin Rees, qui est un scientifique de très haut niveau, professeur d'astronomie et directeur de la Royal Society en Angleterre, qui n'est pas croyant, mais qui dans ses études explique ceci. Il croit dans le Big Bang, donc il croit déjà que cette chose incroyable, mais il dit en plus ceci, c'est qu'avant même l'explosion primordiale, il y avait déjà 6 lois qui étaient en place. 6 lois physiques, il dit, dont la loi de la gravité, et ça c'est une démarche scientifique qu'il a, c'est pas une démarche de religieux qu'il a. Mais la question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'il y avait des lois qui ont été mises en place avant même que la matière commence à jaillir du néant? Qui a placé ces lois? Comment sont-elles là? Ça, c'est l'intelligence des hommes, c'est les raisonnements humains. Mais nous savons que Dieu a placé toutes les lois par sa puissante parole. Et Dieu dit, la Bible le dit, et Dieu dit, et la création fut. Mais les hommes réfléchissent avec leur intelligence et ils sont capables de croire des choses aussi incroyables. Mais nous, ce matin, nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile, frères et sœurs. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a des gens, ils n'ont pas honte de dire ce qu'ils croient, vous voyez. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils croient en des choses aussi incroyables. Et nous, chrétiens, on aurait honte de croire en Dieu. On n'a pas honte de l'Évangile. C'est toujours la puissance de Dieu. Et ça, c'est la vérité en plus. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Oh, quelqu'un m'a dit, je ne pourrai jamais croire comme vous. Vous, vous avez la foi. Vous, vous croyez. Moi, je n'arrive pas à croire. Eh bien, j'aimerais vous dire que tout le monde peut croire. C'est à votre portée. C'est simplement une question d'orienter notre foi dans la bonne direction. Parce que notre foi, nous l'avons orientée vers les choses terrestres. On croit des choses humaines. On croit, par exemple, quand on va à la banque et qu'on dépose un chèque, que cet argent va être mis sur notre compte. On croit que lorsqu'on envoie une lettre, on met un timbre, que la lettre va arriver à destination. On croit quand on monte dans un avion que le pilote ne s'est pas enivré avant de prendre les commandes de l'appareil. On fait confiance. On fait confiance à des tas de choses naturellement, sans les vérifier, sans pouvoir les vérifier, parce qu'on a en nous une confiance qui est là. Simplement, cette confiance, on doit apprendre à la mettre non pas sur des hommes, non pas sur des choses terrestres, et c'est là peut-être la difficulté qu'on n'a jamais appris, parce que ça ne prend pas à l'école, ça s'apprend dans la parole de Dieu. Cette confiance qui est là, on doit apprendre à la mettre maintenant en Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux, on ne peut pas le toucher, et c'est ça peut-être la difficulté qui fait que beaucoup de gens restent sur le bord et n'entrent pas dans la vie de la foi. La foi, c'est mettre notre confiance en Jésus. Notre foi devient alors vivante. Je dirais, la foi, c'est trois choses. Premièrement, la foi, c'est faire confiance à Dieu. Ce n'est pas simplement croire comme on croit les choses de la terre, mais croire maintenant les choses célestes. Deuxièmement, la foi, c'est prendre le risque de s'abandonner entre les mains de Dieu. Un petit peu comme Pierre lorsqu'il a quitté la barque et qu'il a marché sur l'eau, il y a eu un moment où il a pris un risque. La foi, c'est aussi prendre un risque. Mais en même temps, la foi, troisièmement, c'est prendre ce que Dieu dit au mot. Ce que Dieu dit, il est assez puissant pour l'accomplir. Donc, si Dieu l'a dit, je le crois et je prends la parole de Dieu au mot. Un jour, j'ai fait cette prière à Dieu. Dieu, si tu existes, parle-moi. Je n'étais pas encore sauvé. J'étais encore dans ma vie où je cherchais les choses de Dieu, mais je n'avais pas fait de rencontre personnelle. Pourtant, j'étais dans un milieu chrétien. Mais la prière que j'ai fait monter ce jour-là, j'ai pris Dieu en quelque sorte au défi de sa parole. Dieu, si tu existes, si ta parole dit la vérité, alors c'est que tu es capable de parler aujourd'hui. J'ai dit, Dieu, si tu existes, parle-moi. Eh bien, Dieu a entendu cette prière. Parce que le dimanche suivant, lorsque j'étais dans une église, il y a eu un don spirituel. Une personne a parlé, mais ce n'était pas la personne qui parlait, c'était un message du Saint-Esprit qui était très précis. Et Dieu disait, tu m'as demandé si j'existe, je te réponds ce matin. Et Dieu reprenait les mots de ma prière et commençait à dévoiler des choses de ma vie que personne ne pouvait savoir. Donc j'ai pris la parole de Dieu au mot et je sais que Dieu a honoré cette foi simple, parce qu'elle était encore peut-être balbutiante, elle était encore même éloignée de la foi que Dieu veut, finalement, parce que notre foi doit progresser, elle doit grandir. Mais la foi, c'est aussi ça, c'est aussi dire, si Dieu, tu le dis, alors tu es capable de le faire. Nous pouvons prendre la parole de Dieu au mot. C'est la vérité. Alors je reviens à notre verset. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, elle est disponible pour tous, mais par le moyen de la foi. La foi, c'est le moyen maintenant de s'approprier la grâce de Dieu. C'est un petit peu comme dans une maison. Vous arrivez chez vous le soir très tard, il fait nuit, ou dans votre appartement. L'électricité, elle est là disponible. Mais en même temps, il faut appuyer sur l'interrupteur pour que les lumières s'éclairent. Le fait d'appuyer sur l'interrupteur rend visible l'électricité qui est là en permanence. C'est un petit peu comme la foi par rapport à la grâce. L'interrupteur, c'est comme croire, j'appuie sur « je crois » et la lumière jaillit. J'étais dans les ténèbres et maintenant je vois la lumière de la parole. Ce verset nous dit clairement que la grâce à elle seule ne sauve pas. Pourtant, c'est bien dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, la grâce est nécessaire à notre salut. Mais il rajoute par le moyen de la foi. Or, la grâce de Dieu, elle est là pour tous les hommes, mais tous ne sont pas sauvés, parce que le moyen de la foi n'y est pas. Si nous mettons en place le moyen de la foi maintenant, nous sommes sauvés. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. La grâce, on dira, c'est la main de Dieu et la foi, qui est la main de Dieu qui vient du ciel pour nous sauver. Et la foi, c'est la main de l'homme qui saisit la main de Dieu. Alors ça, c'est la première conséquence, bien sûr, c'était certainement la plus développée, c'est le salut. Mais une autre conséquence de la foi, dans Actes 26, que je voulais partager aussi, et au verset 17, Actes 26, 17, une autre conséquence de la foi, c'est le pardon des péchés. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est aussi un des aspects du salut, mais précisément le pardon des péchés, parce que les péchés, c'est cet état dont nous sommes quand nous venons à Christ. Quand j'ai fait cette prière, « Dieu, si tu existes, parle-moi », j'étais encore perdu, j'étais encore pécheur loin de Dieu, j'étais encore dans les ténèbres, mais je cherchais. Et Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez ». Nous devons chercher le Seigneur. Le péché, c'est un petit peu comme une pollution, la pollution de l'âme. Vous vous rappelez quand il y a eu ces, dramatique accident que à Fukushima, la radioactivité a commencé à se manifester dans la région. Et j'entendais un commentaire qui m'a frappé, c'est qu'il disait ceci: la radioactivité, c'est que vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas, mais déjà vous êtes contaminé. Et après, ça se manifeste plusieurs jours après encore. Mais vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas, déjà vous êtes contaminé. Vous ne savez pas qu'il y a de la radioactivité. Eh bien, c'est pareil pour le péché, c'est quelque chose de tellement invisible, tellement sournois. Il est là, il est en train de contaminer la nature humaine, et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont voués à la mort spirituelle. Et les conséquences du péché, c'est la mort. Or, nous avons absolument besoin d'être pardonnés de nos péchés. C'est une grâce de Dieu, ça aussi. Nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés, sinon c'est la mort éternelle. Ah, certains ont mal compris le péché, ils disent « Oui, mais moi je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait de grands péchés, donc Dieu doit approuver ma vie. » Ce n'est pas le problème. La réalité, c'est que nous sommes pécheurs depuis la naissance, par nature. Nous sommes des êtres pécheurs, que nous ayons fait bien ou mal. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler, et c'est ça que Jésus propose. Par la foi, nous avons le pardon des péchés. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'ai senti cette libération du poids du péché. Le jour, le dimanche, où il y a eu ce don spirituel dans l'Église, où j'ai donné mon cœur au Seigneur ce jour-là, il n'y a pas eu d'appel particulier d'un pasteur, le message n'avait même pas encore été prêché. J'ai vraiment compris ce jour-là que j'étais perdu et que j'avais besoin de Jésus comme mon sauveur. J'ai donné mon cœur au Seigneur, et au moment où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai senti en même temps le pardon des péchés. J'étais pardonné de mes péchés, le poids du péché enlevé. Et on n'est pas fait pour vivre sous le poids du péché constamment. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On est chargé par le péché, on est chargé par toutes sortes de situations, des soucis, des angoisses. Venons au Seigneur, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Il prendra soin de nous. On n'est pas fait pour vivre sous ces poids trop lourds pour nous. Troisième conséquence de la foi, on a dit, le salut, le pardon des péchés. Troisièmement, la guérison. Actes chapitre 3, verset 16. Actes 3, 16 dit, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous. » C'était un homme qui ne pouvait plus marcher, un impotent qui était à la porte labelle du temple, et Jean a vu cet homme avec un autre disciple, ils étaient deux, et à ce moment-là, ils ont prié simplement dans le nom de Jésus. Ils ont cru que Dieu allait faire le miracle. Et il dit ici, c'est par la foi dans le nom de Jésus. C'est par la foi qu'il y a eu cette opération miraculeuse. Donc la foi, c'est vraiment important. Pierre et Jean étaient là. Le paralytique s'attendait à recevoir de quelque chose, mais Dieu avait un autre plan. Ce n'était pas simplement il s'attendait à recevoir de l'or ou de l'argent, mais le plan de Dieu, c'était la guérison. Ces hommes n'avaient pas de pouvoir plus que nous. Mais nous avons quelque chose que le monde n'a pas. C'est que nous connaissons celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est Jésus le Fils de Dieu. C'est une foi simple, c'est une foi simple. Ils prient, ils disent, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est presque une foi enfantine. On dit parfois la foi des enfants. Eh bien, la guérison, c'est une grâce. C'est une grâce qui a été donnée à ce paralytique. Ça s'est associé avec la foi, ils ont cru. Ça, c'est notre part. Dieu nous demande juste de croire. Il ne nous demande pas de faire le miracle en lui-même, on ne peut pas. Nous croyons, c'est la foi en lui, et Dieu s'occupe de la guérison. C'est lui le divin médecin, mais nous devons croire ce que Dieu dit. Quatrième conséquence de la foi, les miracles. Jean chapitre 11, verset 40. Il s'agit de Lazare qui est mort. Mais Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la foi a pour conséquence les miracles. Jésus prie pour la résurrection de Lazare. C'est des cas particuliers, c'est vrai. On n'assiste pas tous les jours à des résurrections. C'est des cas extrêmes, extrêmement forts. Il est là depuis 4 jours. Mais en même temps, ça démontre la puissance de Dieu sur les corps, même morts. Qu'est-ce qui s'est passé quand Lazare est mort ? Son âme est partie dans la présence de Dieu. Ça se passe comme ça pour tous les êtres humains. Quand on meurt, notre corps entre dans le processus de décomposition et notre âme est déjà partie dans la présence de Dieu. Mais dites-moi, 4 jours, 4 jours, c'est énorme. Ça veut dire que le processus a commencé. D'ailleurs, c'est une des réflexions de Marthe. Non, n'ouvrez pas le tombeau, il sent déjà. Il sent déjà, ça veut dire l'œuvre de la putréfaction a commencé dans le corps de cet homme. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose d'irrémédiable sur le plan humain. Mais Jésus ne considère pas l'instant aussi grave que nous pouvons le considérer, nous. Pour Jésus, ce n'est pas encore trop tard. Marthe avait même dit, si tu étais arrivé plus tôt, on aurait pu faire quelque chose. Mais maintenant, c'est trop tard. Mais Jésus n'est pas arrivé trop tard parce qu'il a la puissance de la résurrection. C'est aussi un avant-goût de ce qui nous attend quand nous ressusciterons dans la gloire. La seule condition, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a prié le mort, Lazare. Donc quand Jésus a prié, Lazare sort, l'âme qui était auprès de Dieu est retournée dans son corps. Les cellules du corps ont été régénérées instantanément pour qu'il soit délivré de la corruption. Et le corps est ressorti vivant. Donc Lazare est sorti vivant du tombeau. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui doutent quand ils lisent la parole de Dieu parce qu'ils disent, mais c'est trop extraordinaire. Encore les maladies, on arrive, mais une résurrection, ils disent, ce n'est pas possible. Mais nous assistons encore aujourd'hui, à notre époque, à des résurrections encore. Parce que Dieu est le même. Ce que Dieu a accompli, ici, nous le voyons encore aujourd'hui. Alors, ça ne se fait pas à tout bout de champ, mais Jésus n'a pas ressuscité non plus tous les morts qui étaient morts. Il l'a fait pour quelques cas. Ceci pour démontrer que la chose est possible et qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Les miracles prennent place. Je termine avec un dernier aspect, c'est l'exaucement des prières. La conséquence de la foi, c'est l'exaucement de nos prières. Dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est l'exaucement. Mais d'abord, l'exaucement est précédé d'un élément, c'est la foi. Quelquefois, on prie par habitude, par routine, sans croire finalement que Dieu va répondre. On prie machinalement, on ne réalise pas nos propos. Mais la foi doit être présente en croyant que nous allons le recevoir. Je parlais tout à l'heure de la foi d'un enfant. On va imaginer l'exemple d'un père qui va faire les courses avec son enfant dans une grande surface. Cet enfant, il voit un beau vélo dont il a envie pour son anniversaire qui approche, un cadeau. Et il demande le vélo. Et le père dit, non, pas ça. Et il insiste, le vélo, j'aimerais bien avoir ce petit vélo. Et puis finalement, si le père dit oui, pas aujourd'hui, mais tu auras ce vélo, eh bien ça suffit à l'enfant pour croire dans son cœur qu'il va l'avoir. Et ça va le calmer. Mais il le croit dans son cœur. Mais c'est pareil avec Dieu. À un moment donné, il nous faut recevoir par la foi que nous allons obtenir la promesse qui est là, la chose que nous avons demandée. Eh bien, si c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr, eh bien la chose s'accomplira. La Bible dit que Abraham a cru Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là, on est dans le terrain de la foi. On n'est pas dans le terrain du raisonnement humain, on est dans le terrain où tout est possible à celui qui croit. La foi rend présent ce qui est futur. Nous devons le saisir, cela, parce que c'est une des conséquences de la foi. En conclusion, la foi n'est pas une question d'intelligence. Ce ne sont pas les plus intelligents qui ont le plus de foi. La foi n'est pas une question d'émotion. On n'a pas besoin de trembler ou de ressentir telle ou telle chaleur pour croire. La foi, c'est une question de confiance dans la personne de Dieu, dans ses promesses. Donc c'est une décision. Je veux croire. Je veux croire un petit peu comme un enfant qui veut croire ce que son père lui dit. Il le croit et cela l'apaise. Un enfant peut avoir la foi alors qu'un érudit, même de l'Écriture, ne l'aura pas. Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. » Et oui, ils ont la sagesse et l'intelligence des hommes, mais ils n'ont pas la foi, tu les as révélées à tes enfants. C'est la foi simple des enfants. C'est la foi que nous devons avoir. Est-ce que vous voulez croire aujourd'hui? On va prier quelques instants. Si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur, c'est le moment. Ne remettez pas à demain. Jésus vous appelle, Jésus vous aime, la grâce de Dieu est là pour vous. Il y a un seul élément qui manque à votre salut, c'est la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit Paul. Oui, la grâce de Dieu, elle est manifeste pour vous. Jésus a pensé à vous quand il est mort à la croix, ça c'est la grâce. Et le seul élément qui manque aujourd'hui, c'est votre foi à vous. C'est moi, je ne peux pas croire à votre place. Votre ami, votre voisine, peut-être l'ami qui vous a invité, ne peut pas croire à votre place. Mais vous, ce matin, vous pouvez croire pour vous-même. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le voulez-vous? Voulez-vous accepter Jésus? Merci pour ta parole, parce que cette œuvre de grâce, nous la saisissons par la foi, c'est une œuvre de bénédiction. Tu as voulu le salut du plus grand nombre, et nous te prions pour celui ou celle qui n'a pas fait le pas de la foi, qui n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur comme sauveur personnel, qui est là tiraillé entre deux feux, en disant « oui, je veux croire » ou « non, je ne veux pas croire » ou « je n'arrive pas à croire ». Seigneur, nous te prions qu'en cet instant, l'Esprit Saint vienne convaincre de péché, de justice, de jugement, pour opérer ces nouvelles naissances que toi seul tu peux opérer dans les cœurs. Merci de faire naître de nouveau des personnes qui sont perdues, des personnes qui luttent et qui combattent dans leur entendement parce que leur foi est une croyance, c'est une religion, c'est une religiosité, mais ce n'est pas la foi qui sauve. Te prions pour que la foi vienne dans les cœurs ce matin, la foi authentique, la foi qui permet le salut. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu.